Bac FM, il est 18h30 pour ce nouveau numéro de Parlez-moi de vous. Mon invité est le manager général de l'USON Nevers Rugby, Xavier Pemeja. Retour sur sa vie au cœur de l'Ovalie, de son plus jeune âge à maintenant, de la plus rose des villes roses, Montauban à la cité ducale Nevers. Retour sur une vie pour une passion. Bonjour Xavier.
Bonjour.
Merci d'accepter mon invitation. Je suis très heureux de vous recevoir parce que c'est vrai qu'on se voit beaucoup, c'est ce que je disais là avant qu'on s'assoie ensemble, beaucoup pour les avant-matchs, pour les après-matchs en fait de l'USON. Donc je vous connais sous la casquette de coach, mais j'imagine, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que Xavier c'est quelqu'un d'autre aussi au-delà d'un coach de l'USON, et c'est ce qu'on va voir ensemble. Et puis c'est une carrière aussi avec le rugby. On est à l'heure actuelle dans une des loges du stade du Pré-Fleury. On ne pouvait pas être ailleurs, en fait, qu'ici. C'est un petit peu votre maison, votre deuxième maison.
Ben, c'est là où on vit les grands moments, surtout. C'est le moment de passion, et le match est toujours un moment de passion, d'adrénaline, de déception, de plaisir, voilà, de remise en question. On a des vies à la semaine. Coach, là aujourd'hui je suis plutôt manager, voilà. On a des vies à la semaine qui est rythmée par le match, donc c'est des petites morts chaque fois, parce qu'un match qui est joué, mais il ne se rejouera plus jamais, donc c'est des petites morts et la vie derrière qui repart, voilà, donc c'est une vie qui est fabuleuse.
En arrivant là, je me suis fait cette réflexion, l'enceinte est complètement vide, je vous ai vu là sur le parking, vous aimez vous balader des fois comme ça dans le stade quand il est vide, il y a peut-être cette odeur un petit peu différente de quand il est rempli avec le public, avec les joueurs qui jouent, qui s'entraînent, etc.
Oui, j'adore ça, aller sur le terrain même, quand il n'y a personne, passer dans le vestiaire, voilà, c'est... de toute façon j'aime beaucoup les stades. C'est une grande partie de ma vie, de toute manière, le stade fait partie d'une grande partie de ma vie. Donc c'est vraiment des moments super, même quand j'aurai le temps, plus de temps pour moi bientôt. Je pense que la visite de stade dans l'Europe m'intéressera beaucoup.
Bientôt, ça c'est intéressant.
À mon âge.
J'ai laissé les auditeurs vous poser quelques questions, on va revenir là-dessus tout à l'heure justement. Et il y a une question que j'ai trouvée très intéressante, il y a un auditeur qui se demande si le prochain rôle que vous aurez, ce ne sera pas celui de consultant. J'ai trouvé ça intéressant, on va y revenir. Juste avant, on va faire un petit saut dans le passé, si ça ne vous dérange pas, on va aller au 4 juillet 1960.
Oui, ça c'est ma naissance.
On va se pencher sur Xavier Pemeja qui est petit. Comment le rugby est arrivé dans votre vie? Est-ce que vous êtes né dans une famille où le rugby avait déjà une place importante?
Non, dans la famille, il n'y a personne qui a joué au rugby avant moi. Je suis arrivé au rugby en 1968, déjà par l'instituteur qui nous faisait savoir qu'on était 51 en classe, garçons, 51 garçons, mais, donc, et qui nous avait donné goût au jeu à 13. Parce que c'était il ne voulait pas de mêlée, il ne voulait pas tout ça, il voulait vraiment du jeu vivant.
Ouais.
Donc il nous faisait jouer à 51, à 13 sur un terrain de rugby. Déjà, ça m'avait donné le goût de ce ballon ovale, alors que j'étais vraiment tourné vers le foot, beaucoup vers le foot. Et puis surtout,
ah oui,
j'adorais le foot.
Et c'est étonnant, quand on vient,
j'adorais ça.
Quand on vient de Montauban, la plus rose des villes roses.
Eh bien, ça a été le foot, le problème, je voulais faire du foot, mais comme il n'y avait pas justement de structure pour accueillir les jeunes, les enfants, je me suis retrouvé à faire du rugby grâce à un ami qui était à jouer au sport il n'y a pas longtemps, qui m'a amené au rugby, et cet instituteur aussi qui nous avait donné goût à ça. Et surtout, ce que j'ai commencé en 68, et il faut savoir qu'en 67, Montauban est champion de France. Donc ça a dû jouer malgré tout.
Il y a cette pulsion, en fait.
Pulsion, voilà, ça a dû jouer malgré tout. Et puis après, j'ai habité à côté du stade, donc bon, voilà, et j'ai fait toute l'école de rugby jusqu'à 1979 où j'ai commencé en première.
À ce moment-là, quand vous commencez le rugby et qu'on vous demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard, vous répondez quoi?
Là, à ce moment-là, ce ne sont pas du rugby. Jeune, j'ai voulu faire être prof de gym. Puis la vie a fait que je n'ai pas pu le faire. Et après, j'ai été dirigé parce qu'à l'époque, quand on joue au rugby, il y avait peu d'argent, mais il y avait du travail.
Ouais.
Et on m'avait proposé de rentrer au Crédit Agricole.
D'accord.
Ce que j'ai fait, et j'ai vécu de très bons moments dans cette entreprise où j'ai découvert que je pouvais être un commercial, que je pouvais être un comptable, que je pouvais être quelqu'un qui aimait la fiscalité. Voilà, parce que c'est une belle entreprise. Donc ça fait que j'ai vécu de bons moments jusqu'à que on me propose d'être entraîneur. Ça, c'est en 93.
Et c'est des expériences, ça, qui vous servent encore maintenant quand vous devez parler à vos joueurs, quand vous devez communiquer avec votre staff. Avoir des expériences passées comme celle-là, vous, des fois, vous pouvez vous servir de certaines choses que vous avez pu apprendre.
Je pense que ça me servirait plus maintenant au Crédit Agricole, si je revenais au Crédit Agricole, l'expérience que j'ai eue dans le sport. Je pense que ça me servirait beaucoup plus.
Comment vous étiez jeune sur le terrain, demi de mêlée, quel caractère vous aviez ?
D'abord, moi, j'aimais être avec les copains. Donc, le rugby, ça m'a procuré ça. J'aimais pas tellement être seul. J'aimais être beaucoup avec les copains. C'était une époque où on était, quand vous étiez poussin, comment j'appelle ça, poussin, à l'époque, vous étiez une dizaine, pas plus. Aujourd'hui, 150 gosses de moins de 8 ans, ou de moins de 10, je sais pas. Donc, c'était complètement différent. Il y avait une grosse proximité. Il n'y avait pas de formation d'entraîneur, il n'y avait pas de on écoutait ce que disait l'entraîneur.
Ouais, mais c'était l'école du terrain.
Voilà, c'était l'école du terrain, c'était vraiment l'école de la vie. Il y avait peu de matchs, il y avait quelques matchs, mais peu de tournois comme maintenant. Donc le tournoi, c'était toujours exceptionnel de se retrouver avec beaucoup d'équipes. Voilà, on jouait le dimanche matin des fois de bonne heure. C'était des horaires qui étaient particulières. Voilà, après j'ai eu la chance d'être à Montauban, où il y avait cette culture de rugby quand même qui est extrêmement forte. Et ça m'a permis de rencontrer mon premier entraîneur encore qui m'envoie des textos. Ah ouais. Donc oui, quand on gagne ou quoi, c'est des souvenirs énormes.
Ouais, c'est un soutien qui est important. Mais ce qui est intéressant, ce que vous dites, quand vous avez commencé le rugby, il n'était pas du tout organisé de cette manière-là. En 1980, vous devenez donc demi de mêlée senior à Montauban. À cette époque, il n'y a pas de Pro D2, il n'y a pas de Top 14, il n'y a même pas de Top 16. En fait, parce que ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que le top 14 a commencé par le top 16. Comment c'était organisé à ce moment-là ?
À l'époque, c'est le groupe A, je pense, et il y avait groupe A, groupe B. Ça a tellement changé. Je vais vous dire que j'ai du mal à me souvenir de tous les changements qu'il y a eu avant d'arriver à fixer le top 16. Mais il y a eu du groupe A 40 clubs. Après, il y avait le groupe A 40 clubs et groupe B à 40 clubs avec 4 poules de 10. Voilà, moi quand j'arrive au club en 79, je ne me souviens plus à quel niveau on est. Après, on est monté dans l'élite du rugby.
Et vous vous rappelez de votre premier match ?
Mon premier match, oui, je m'en souviens, c'est contre Agen. Je m'en souviens, c'est contre Agen. On me fait jouer un poste que je n'avais jamais joué. C'était ailier. Et ce jour-là, ça s'est bien passé. À l'époque, il n'y avait pas de vidéo, donc il fallait faire le bon geste devant la tribune et devant l'entraîneur. Et comme ça, ça vous permettait de rentrer. Et j'ai eu cette chance de faire ce premier match, d'avoir de la réussite dans un poste que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai intégré l'équipe. Et après, bon, j'ai toujours eu des gens au-dessus, à côté de moi, qui étaient meilleurs que moi à mon poste. Donc j'ai passé beaucoup d'années à un coup neuf. J'ai même joué 10, j'ai même joué centre, j'ai joué ailier, j'ai joué arrière, à tous les postes dans le groupe A de l'époque. Puis après, le club a eu des grosses difficultés, perdu beaucoup de joueurs et qui se sont arrêtés, pas de moyens financiers. Donc on est tombé, ma dernière saison, on remonte en 91, je crois, on remonte. Mais en 93, quand j'arrête, on était 55e club français. On était vraiment descendu assez bas, quoi. Hein.
Qu'est-ce que vous retenez de cette période de joueur à Montauban ?
C'est maintenant que je me rends compte l'importance que ça avait. Mais
plus on vieillit, plus on fait le bilan.
Ouais, non, mais surtout l'engouement qu'il y avait à Montauban, c'était de pouvoir de jouer à Sapiac en équipe une. C'était quelque chose dont rêvaient beaucoup d'enfants de Montauban. Donc c'était vraiment des moments heureux, de fierté, mais sans trop se rendre compte parce que j'étais pas du tout dans une famille qui était là-dedans. Donc j'étais papa de bonheur. Ouais. Ça, voilà, c'était.
Oui, il y a toute la vie à côté aussi qui suit son cours, la vie personnelle, ouais, bien sûr.
On s'entraînait deux fois par semaine, juste, il y avait le match. Voilà, c'était pareil, c'était encore des croisés des grands joueurs. Hein. J'ai eu la chance de croiser de grands joueurs qui ont joué avec moi et contre moi.
Mais d'ailleurs, est-ce que vous vous rappelez avec qui vous avez commencé votre premier match à Montauban ? Avec qui vous êtes devenu vraiment senior à Montauban ?
À l'époque, il y avait des Clèdes, il y avait des Porcel, des noms que vous ne connaissez pas, des Saturnais.
Éric Fourniol.
Éric Fourniol, il avait même commencé un petit peu avant moi, lui, Éric. Éric, lui, c'était un ami d'enfance.
Parce que ce qui est intéressant, c'est que Éric Fourniol est devenu scénariste pour le cinéma et il a fait un film, travaillé sur un film récemment qui parle le rugby, qui s'appelle Pour l'honneur.
Oui, et il avait écrit un film aussi, il a fait un film, si vous avez bien travaillé, il a fait un film, c'était un film humoristique, avec, il y avait de ce qu'il avait été réalisateur, hein. Il y avait de bons acteurs, il y avait Emmanuel Béard d'ailleurs, je crois, je ne me souviens plus le titre.
C'est Voyance et Manigance.
Qui a pas marché, ça a été son gros regret parce que mais bon, il avait tourné ce film à Montauban. Après, il avait participé aussi à Fils à Joe, je crois. C'est un gars qu'on ne s'est jamais lâché. Bon, il est parti à Toulon. Il avait cette chance. Oui, cette chance de. C'était vraiment un très bon joueur. Il a cette chance de partir à Toulon, à la grande époque de Toulon, où il a été champion de France et finaliste, je crois. Il a eu une cape aussi, hein. Il a été international. Et on ne s'est jamais lâché. Il m'appelle régulièrement quand on gagne, quand on perd. Voilà, et il vit sa vie à Paris.
Quand on a quitté Montauban pour arriver à Nevers et qu'on reçoit, vous parliez de votre premier entraîneur, vous parliez de votre ami d'enfance, qu'on reçoit des appels de Montauban, ça fait plaisir quand même un peu, c'est des moments qui reboostent aussi.
Oui, après Montauban, j'ai passé de... C'est le problème, c'est que j'ai... Quoi le problème ? J'ai commencé en 1968 ma première licence et la dernière, elle est d'entraîneur. Je ne sais même plus en quelle année, je suis revenu. Je crois que j'ai 40 ans de licence sur une vie de... J'ai 64 ans et j'ai 40 ans de licence là-bas. Donc c'est vrai que j'ai connu beaucoup de monde, j'ai croisé beaucoup de monde, j'ai vécu beaucoup d'histoires positives, négatives. Voilà, et puis c'est mon club. Je suis à Montauban, mes enfants sont nés à Montauban, ils ont joué au club, mes trois fils. Voilà, on a vécu vert et noir pendant des années et des années.
Vous parlez de vos enfants, c'est une fierté quand on est papa, entraîneur, joueur de rugby, d'avoir ses enfants qui décident d'aller faire du rugby, d'autant plus à Montauban. Si vous auriez dit « Papa, je voudrais essayer le ping-pong », qu'est-ce que vous auriez dit ?
J'aurais rien dit, qui choisissait. Non, j'aurais rien dit. Après, j'ai jamais trop poussé mes enfants, parce que je voyais un petit peu aussi les dégâts qu'il y avait au niveau des jeunes, qui mettaient tout là-dessus, ça commençait. Et jamais trop poussé. Ma femme s'est bien occupée d'eux pour l'école.
Il y a une certaine pression aussi pour eux d'ailleurs d'avoir un...
Ouais, mais j'allais pas les voir trop, même, je vais dire. J'aimais pas trop ça. Il y en a un que j'étais allé voir une fois. C'était un président qui m'avait demandé de venir. J'y suis venu et je suis rentré à la maison dans l'ambulance avec lui. Donc ça m'avait refroidi complètement. Voilà, j'ai jamais trop poussé mes enfants. Ils ont joué au rugby. Il y en a un qui joue au Canada encore, qui joue à Montréal. Ça, il fait sa dernière saison à 40 et quelques années. Le dernier, il a arrêté pas longtemps. Le premier, il a même fait des tentatives d'entraîneur, mais c'est le temps qu'il y a manqué. Voilà, ils ont joué au rugby. Et puis surtout, d'avoir joué au rugby, ça fait souvent des jeunes équilibrés socialement, qui ont l'habitude de partager, qui ont l'habitude d'avoir beaucoup d'amis, beaucoup de copains. Et ça, c'est cet équilibre social, moi, j'y tiens énormément. Et le rugby amène ça, et je vois que je suis très fier de mes trois garçons parce qu'ils sont super bien équilibrés, avec beaucoup d'amis.
On va quitter la casquette de joueur et on va reprendre la casquette d'entraîneur maintenant. Vous avez 35 ans quand vous devenez l'entraîneur de Montauban. Comment ça s'est fait ? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà réfléchi un an, deux ans avant ?
J'avais 33 ans. C'est en 1993 que je démarre. J'avais 33 ans. Le club était en grosse difficulté. Moi, j'étais capitaine. Je ne savais pas si j'arrêtais, si je continuais. Je vous dis, on était 55e club français. Il n'y avait pas grand monde dans les tribunes. Il y avait des problèmes financiers, pas mal de problèmes financiers. Puis un jour, le président de l'époque vient me voir et me dit, paye-moi l'apéro. Voilà, après l'apéro, je veux que tu me dises si tu es entraîneur ou pas l'année prochaine. J'ai pas d'argent. Je te préviens, trois rien.
C'est un petit peu le hasard, en fait.
Ça a été là, ce président qui est venu me demander. Et pourquoi j'ai dit oui ? Alors, bien sûr que c'est quelque chose qui m'intéressait. Mais à l'époque, c'était beaucoup moins structuré que maintenant.
D'ailleurs, vous avez connu la professionnalisation en cours de mandat, après, en fait.
Après, oui, parce que là, je commençais à entraîner. On était deux et on s'entraînait deux fois par semaine. C'était vraiment amateur, quoi. Très amateur, à part le boulot, parce que le club m'avait eu le boulot. Voilà, donc j'ai dit oui. Et puis après, c'est enchaîné, le déclic, ça a été une grosse défaite qu'on a contre La Rochelle à Montauban, où on fait un gros match, mais on en prend 40. Et c'est Jean-Pierre Elissade qui me dit, écoute, comment vous travaillez ? Et je lui dis, il me dit, mais c'est pas possible, tu n'avanceras pas. Aujourd'hui, viens me voir à La Rochelle, je te montrerai. Et là, j'étais allé passer 2-3 jours. Et il m'avait montré le centre de formation, l'entraînement au quotidien. Et quand je suis revenu à Montauban, j'ai eu mon président, j'ai dit, écoute, on est mort. Si on ne bascule pas, on est mort. Et ce président a écouté, et ça n'a pas été simple, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens. Heureusement, il y a beaucoup de joueurs qui étaient employés par la mairie. Et le maire de l'époque avait autorisé que le joueur arrive à 11h30 et reparte à 14h30, donner une heure. Quelques autres entreprises aussi avaient accepté. Et on s'est mis à s'entraîner tous les jours. des joueurs qui n'avaient jamais fait, moi je ne l'avais jamais fait.
C'est vraiment le début de la professionnalisation du club, c'est en même début, temps que voilà. Le rugby évolue, parce que le top 16 arrive, la Pro D2 aussi arrive, vous allez connaître la Pro D2, le top 16 également d'ailleurs.
Oui, et là on a basculé dans ça, la première année c'est très compliqué, on nous appelait les professionnels alors que les joueurs ne gagnaient pas plus d'argent, juste on s'entraînait tous les jours, en faisant un peu n'importe quoi, parce que quand vous ne savez pas faire tous les jours, c'est compliqué, mais bon... Ça a permis de s'enclencher, puis après est arrivé derrière des préparateurs physiques comme Gilbert Gascou, est arrivé Nicolas Buffat qui est qui est aujourd'hui l'analyste vidéo de l'équipe de France. Voilà, est arrivé ces compétences-là qui m'ont amené sur la muscu, sur la préparation physique, sur l'analyse vidéo, sur les logiciels. Et on s'est développé comme ça avec des petits moyens. Et ça a payé, on a réussi à monter dans le groupe A2 de l'époque qu'on appelait, en passant par des étapes, des moments compliqués avec des fêtes à Dijon à la 92e minute, parce que si Dijon perdait, il descendait, donc il fallait qu'il reste, donc ça a été des histoires, mais ça nous a jamais retardé avec un match contre Lombès à Matin où il fallait pas de carton rouge et mon ami Henri Broncan avait décidé de relever la première mêlée de manière à ce qu'on ait un carton rouge, et on a un carton rouge, donc on n'est pas monté. Voilà, il y a eu plein d'histoires comme ça, mais on y est arrivé. Et on est passé de... On est arrivé, on est monté en la première année de Pro D2, en 2001, où on est champion de France. On monte en 98 d'abord, en groupe A. Là, on se plante. On monte, on ne savait pas pourquoi d'ailleurs. En décembre, on était déjà mort. Mais les joueurs sont restés ensemble. Et on est champion de France l'année suivante en Pro D2. La première année Pro D2, 2001 contre Toulon. Et là, on arrive à faire 3 ans en top 7 d'époque, en première année, en gagnant même les play-downs, en finissant 9e. Deuxième année 10e, troisième année 11e. Et la quatrième année, il y avait gros problèmes financiers et ça s'est planté. Voilà, on est redescendu, je manque le match barrage, puis j'étais à ma 13e saison d'entraîneur, j'étais au bout. Voilà, j'étais un petit peu au bout.
Le départ du club à ce moment-là, il vous affecte quand même quand on est un enfant du club comme vous? On fait pas ses valises comme quand on part d'ailleurs?
Non, mais quand on me dit qu'on n'allait pas continuer avec moi, bon, j'avais un emploi. J'avais un emploi au Crédit Agricole à côté.
Ah oui, vous aviez double emploi encore à ce moment-là?
Oui, à ce moment-là, je travaillais un peu au Crédit Agricole, plus j'étais à 2/5 seulement, hein, et plus le rugby, donc c'était pas non plus tout confort. Mais il n'y avait pas tellement d'être entraîneur, je perdais de l'argent même.
Hein. Parce qu'avant, il n'y avait pas une économie qui était assez pérenne que maintenant.
Non, je perdais de l'argent plutôt que d'être au Crédit Agricole, je perdais beaucoup de choses, davantage, mais bon, c'était comme ça, c'était la passion. Et quand on me dit qu'on arrête avec moi... Bon, ça fait un peu mal, mais Bayonne m'a appelé très rapidement.
2005-2008.
Après, comme il dit, on ne me gardait pas. Donc, ça m'a donné un autre objectif. Ça m'a fait découvrir à 45 ans, je crois à peu près, ouais, 2005, ouais. 45 ans, de partir de chez soi. Parce que jusqu'à maintenant, j'avais été toujours chez moi et je recevais les gens. Et là, j'ai appris ce que c'était d'arriver ailleurs. Avec quelques nationalités, il y avait très peu d'étrangers à Montauban. Là. On se retrouvait avec 8 nationalités différentes. Bon, des gens qui n'avaient pas eu tout ma façon de travailler. Et il a fallu vraiment que je me mette en question. Je pense que ce virage-là, où ça a été très dur, on a joué 3 ans le maintien, on y est arrivé. Parce que ce n'était pas le Bayonne d'aujourd'hui. Hein. Mais j'ai vécu des choses très fortes là-bas. Ouais. Très, très fortes.
Et vous partez à Bourgoin-Joyeux ensuite.
Et après, je pars à Bourgoin. Ouais. J'ai fait mes 3 ans de contrat à Bayonne. Et puis on me dit mais entre-temps, j'avais eu des contacts à Bourgoin-Jallieu grâce à Eric Attino et M. Martinet. Voilà. Et là, pareil, 3 ans, 2 ans, super. Et puis après, la dernière année, c'est une catastrophe parce que M. Martinet était parti. Donc les gens qui géraient le club étaient incompétents et ont mis le club dans une situation de faillite. Et ça fait qu'il n'y avait plus d'engouement, plus rien. Et là, je suis parti. Voilà, ils m'ont licencié en février, je crois, pour un contrat qui finissait en juin. Ça avait été ce jour-là, c'est la seule fois où j'avais vécu une libération. Ouais. Parce que c'était insupportable de travailler. Oui, c'était insupportable de travailler avec des gens qui étaient vraiment. Qui étaient les fossoyeurs du club. Quoi. Un club comme ça qui le méritait pas. Là, je vois qu'il est en train de repartir, je suis bien content pour eux.
Moi, je préfère revenir sur des choses un petit peu plus belles de la carrière. J'ai vu que vous aviez été finaliste du Challenge européen.
Oui.
Avec Bourgoin-Joyeux en 2009. Vive des parcours européens comme celui-là. C'est le Graal pour un manager.
J'avais vécu à Montauban les premiers matchs parce qu'on est monté en top 7. Du coup, on s'était retrouvé en Coupe d'Europe. On avait gagné le premier match à Montauban contre Basse, je crois. On a failli se qualifier la première année. Et puis après, moi, c'est quelque chose qui m'a... À chaque fois qu'on était en top 16, Montauban plusieurs années, Bayonne les 3 ans. Bayonne n'était pas trop tourné vers ça à l'époque, du tout. Mais moi, j'aimais beaucoup ce changement de façon d'arbitrer, ce changement de façon de jouer. Je trouvais que les joueurs, ça leur donnait un bol d'air. Le club n'appréciait pas trop, il n'y avait pas grand monde qui venait, sauf à Bourouin, parce que Bourouin, c'était... Monsieur Martin avait vraiment mis une culture de Coupe d'Europe. Et c'est vrai qu'il n'y a qu'un match qui me réveille aujourd'hui encore, c'est la finale de la Coupe d'Europe perdue. Il n'y a que ce match-là qui me réveille. Avec le...
C'est-à-dire que des fois, vous y repensez encore, vous avez des images encore en tête de ce moment-là.
S'il y en a bien un, ou ces images-là, c'est celui-là. Parce que ce match qu'on doit gagner, pareil, les dirigeants avaient été incompétents, parce qu'on aurait dû jouer ce match en France. C'était le tour de jouer en France, à Grenoble, on aurait dû jouer. La sortie, ils s'en étaient pas occupés, donc c'était retrouvé à Londres pour jouer contre Saint-Ol. Voilà, c'était bien fait à voir, mais c'est bête parce que ce match, on le. Une décision d'arbitrage qui est dure pour nous parce qu'il doit y avoir essai de pénalité. Jeff Cook qui se meurt contre le drapeau, Lowe qui me tue Morgan Parra. Voilà, il y a plein d'histoires dans ce match-là. C'est vraiment le match qui me réveille.
On dit que des fois le temps fait son effet, mais quand on est compétiteur, c'est pas tout le temps vrai alors.
Non, parce que perdre une finale, c'est terrible. C'est terrible de perdre une finale. Y arriver, c'est dur, mais là, la perdre, c'est terrible. Et c'est pour ça, soit moi, j'en parle aux joueurs, j'aimerais que Nevers connaisse la Coupe d'Europe.
Vous pensez que c'est possible ?
Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. De toute façon, qui aurait dit que Vannes serait en top 14 il y a 4 ans, 4-5 ans ? Personne. Donc, c'est possible. Après, le Pro D2, c'est un championnat qui est très ouvert. C'est vrai que cette année, on a très mal démarré. On a mal fini l'année dernière, on a mal démarré cette année. On est un petit peu dans une période où on réintègre des jeunes, beaucoup de jeunes. On verra comment finira ma carrière à Nevers. Mais là, pour le moment, j'ai beaucoup de satisfaction, bien sûr, mais j'ai beaucoup de regrets parce que je pense qu'on pouvait faire beaucoup mieux sur les 3 dernières années.
Cette carrière que vous avez prolongée d'un an, d'ailleurs, récemment, on va revenir dessus. Je voudrais faire un tout petit détour. J'ai vu qu'en 2008, en juin précisément, vous êtes invité à entraîner les Barbarians français avec Jean-François Beltran pour un match contre le Canada. C'est quoi en fait, c'est quoi cette histoire ?
On a fait une belle saison avec Bayonne, une belle saison de maintien où c'est vrai qu'on avait... Ça avait été très très dur, mais on y était arrivé. Et c'est Serge Blanco qui nous avait proposé pour cette tournée au Canada. Donc ça aussi, ça a été d'être entraîneur de Barbarians. C'est quand même un bel hommage. Je veux dire, voilà, je pense que Serge Blanco, malgré qu'il soit biarro, avait voulu nous récompenser, je pense, de la saison qu'on avait fait avec Jeff. Voilà, ça fait qu'on était parti avec les Warriors Canada et on avait gagné en plus. Donc, ça avait été trop court, c'est tout. Ça avait été une petite semaine, mais c'est un grand souvenir aussi.
Ouais, ça aussi, c'est des petits moments qui marquent dans une carrière, des petits plus.
Oui, bien sûr.
Pendant ce temps-là, il y a un club qui va mal, c'est Montauban. On va pas revenir sur ce passage-là que vous avez eu avant avec Montauban avant de revenir à Nevers. Par contre, il y a quelque chose que j'ai vu. Vous avez une saison marquée 84 points sur 90 possibles. Est-ce que c'est pour l'instant la plus belle saison dans un club de votre carrière ?
C'est la remontée en Pro D2. Quand je suis parti de Bourgoin, j'avais un ami qui est parti malheureusement. Max Affar qui m'avait téléphoné pour essayer de voir si je ne pouvais pas reprendre le club de Montauban qui était en fédéral, qui avait eu des dépôts de bilan et qui était en fédéral sans salaire. Bon, j'ai touché mon chômage. Donc comme c'était Montauban, je l'ai fait.
Ça aurait été un autre club, vous ne l'auriez pas forcément fait, c'est parce
non,
que c'est
Montauban. Non, je n'aurais pas fait, puis c'était Max Affar. Je veux dire, c'était mon docteur, mon ami, mon frère avec qui j'avais joué. Il jouait 10, je jouais 9, donc c'était pas possible de lui dire non. Puis son autre dirigeant, Serge Gros aussi, que je connaissais depuis que j'étais enfant, voilà, des dirigeants. Je pouvais pas dire non, je l'ai fait. Après, bon, je veux pas revenir sur la fin, parce que c'est à la limite, il y a que moi que ça touche. Et on a réussi à remonter, et surtout on a réussi à battre le record d'entrée au stade pour le match de la montée à Sapiac. Pourtant, j'en ai vu des matchs à Sapiac, moi. Il y avait plus de 11 000 personnes au stade, sur un stade qui en contient 9 000. C'était irréel, j'avais jamais vu ça. Et il y a des gens partout. À 13h30, le match était, il faisait un temps magnifique. Avant le match, ils avaient vendu je ne sais pas combien. Tout était beau. tout a été beau ce jour-là. Et c'est la montée. Puis voilà, bon, et...
Quand vous êtes arrivé à Montauban, à ce moment-là, c'était votre objectif de remonter le club au moins en Pro D2 du monde.
Oui, c'était l'objectif. Puis là, on a réussi à se maintenir. Puis après, bon, ça c'est fini comme c'est fini. Mais à Montauban, des montées, j'en ai vécu. 98, quand on est monté à top 16, ça avait été... 99, la première montée, ça avait été réel, la ville avait été en feu. Et la deuxième, quand les champions de France en 2001, qu'on revient de Toulon aussi, c'était des moments uniques. J'aimerais qu'ici, ils vivent ça, les joueurs, parce qu'on on s'aperçoit qu'on donne tellement de plaisir aux gens. On ne se rend pas compte tellement, c'est quand, sur le moment, le plaisir qu'on donne, c'est monstrueux. Donc j'aimerais bien qu'ici, ils voient ce plaisir-là.
On a vécu des beaux moments déjà à Nevers, mais vous, par votre carrière, par votre expérience, vous savez qu'il y a encore des plus beaux moments qui sont possibles
oui,
à vivre.
Oui, oui, il y a encore des plus beaux moments. Ouais. Et rien de plus beau qu'un titre. Voilà, aucune grosse montée. La montée ici avait été fabuleuse aussi. J'ai un gros souvenir aussi de cette montée-là.
Bon, alors Montauban, c'est bien beau, mais ici, c'est Nevers. Ça, on peut l'entendre régulièrement le vendredi ou le jeudi soir, tout dépend du match. Est-ce que les supporters, vous les entendez parfois quand vous coachez?
Quand je suis venu ici, que j'ai rencontré M. Dumange et son fils, il m'a amené ici. Bon, j'étais venu, on avait perdu à Montauban, mais je n'avais pas trop fait attention. Et le stade, quand vous arrivez de la route, vous ne voyez pas très bien. On ne voit pas très bien ce qu'il y a. Ouais, c'est vrai. C'est quand vous rentrez sur ce terrain, vous retrouvez sur le terrain, que vous tournez la tête à droite, à gauche un petit peu, et je me suis dit, il va se passer quelque chose ici. C'est sa santé. Que c'était vraiment un endroit rugby. Voilà, ça s'est passé, il y a eu la montée, j'espère qu'il y aura encore des choses encore plus fortes, mais c'est un stade que j'adore, parce qu'il est bruyant, les supporters, quand il est plein, les supporters poussent, même si on l'a vu ce week-end, même quand on était en difficulté, il n'y a jamais personne qui a lâché son équipe. Donc c'est vraiment un stade qui est... Il manquerait juste une tribune à la place de la Bodega. Et, ouais, non, mais je pense que tout le monde y pense, que le président y pense, pour vraiment faire un stade fermé. Mais c'est un stade où les tribunes sont proches du terrain.
C'est important, ça.
Très important. Ouais. Très important. D'ailleurs, ce que fait Montauban aujourd'hui, qui rapproche les tribunes, qui a rapproché les tribunes du terrain. Quoi.
Ouais, mais d'ailleurs, c'est dans beaucoup de clubs. Moi, j'ai pas une culture rugby qui est énorme. Moi, je suis plus footeux, comme vous au début. Mais j'ai habité à Clermont. J'allais beaucoup voir Clermont en Coupe d'Europe, fut un temps. Et c'est vrai que ça m'a toujours impressionné l'espace qu'il y avait entre la ligne et vraiment les supporters. C'est assez impressionnant. J'ai vu même des joueurs se battre au milieu des supporters. C'est assez.
Ouais, ça, c'est pas bien ça, mais non, mais c'est vraiment. C'est un stade rugby. Nevers est vraiment un stade rugby. Et puis. Ça perçoit malgré tout, c'est une ville de 35 000 habitants, je pense, dans ces eaux-là.
Ce qu'on appelle une ville médiane.
Oui, une ville médiane. Il y a les plus grandes agglomérations sont malgré tout à une heure. Il y a Bourges, après tout le reste assez loin. Est assez loin qu'on arrive à mettre 7 000 personnes dans le stade. C'est une performance extraordinaire.
Quand vous êtes en Occitanie, tranquille chez vous, qu'on vous appelle pour venir dans la Nièvre, vous doutez au début ou tout de suite le challenge vous plaît? Vous savez que vous venez pour une ambition de moderniser aussi un petit peu le club à ce moment-là. Il vient de changer de nom d'ailleurs. Avant, ce n'était pas Luçonne, c'était l'Union Sportive Olympique Nivernaise. C'est devenu Luçonne. Ensuite, il y avait vraiment un vrai enjeu d'amener un côté encore plus professionnel au club. C'est ce qui vous a motivé?
C'est déjà professionnel. Quand je suis arrivé, parce que c'était quand même, il y avait des structures. Moi, je suis arrivé, l'outil de travail était terminé, le centre d'entraînement était déjà fait, donc il y avait cet outil. L'outil stade était là. Il y avait un président, monsieur Dumange et sa famille étaient hyper motivés pour que ça réussisse. J'étais pratiquement sûr que ça monterait en Pro D2. Il y avait déjà cette certitude-là, donc il y avait un challenge intéressant.
Un an, il vous a fallu pour faire monter Luçonne en Pro D2.
Moi, j'ai mis un an, mais je veux dire, avant, Jean n'était pas passé loin. Ouais. Voilà, c'est tout le travail qui a été fait avant, malgré tout, à préparer. Moi, je suis arrivé la bonne année, on va dire. Et puis surtout, il y avait déjà en place un staff qui était hyper compétent, très, très compétent. Donc, il n'y avait pas de raison que ça ne marche pas.
Avec un budget qui était l'équivalent des meilleurs budgets de Pro D2 à l'époque, ça a beaucoup aidé aussi. Ça vous a montré à ce moment-là aussi que le rugby avait pris un nouvel élan?
Oui, et puis c'était un budget qui était fort pour la Fédéralune, Donc en général, ça on va dire que ça paye, ça aide. Après, ça nous a permis, ce budget, de prendre des, on va dire, des vieux briscards. Parce que la première année de Pro D2, je pense que si on était resté avec le même effectif, on n'aurait pas résisté. Il nous fallait des vieux briscards.
Ils sont importants, ces vieux briscards, dans une équipe ?
Mais ils ont été importants à ce moment-là. Voilà, ils ont eu cette importance à ce moment-là. Ils ont amené un peu de confiance aux jeunes et de la maturité et surtout de l'expérience. Voilà, après, ils coûtaient un peu cher, c'est tout.
Depuis 2017, votre meilleur parcours, c'est une demi-finale perdue face au Stade Montois. C'est il n'y a pas très très longtemps. 7e, 6e, 4e, éliminé en barrage en 2003, 7e l'année dernière. Quel bilan vous faites, vous, pour l'instant, de votre aventure Husson ?
Moi, alors il y a le côté positif parce qu'on s'est maintenu de suite, ce qui n'était jamais simple en Pro D2, surtout à l'époque. Aujourd'hui, c'est parce que aujourd'hui il y a la Nationale 1 qui prépare bien à la Pro D2. À l'époque, la Fédérale 1 ne préparait pas du tout à la Pro D2. Donc ça avait été, c'est un bon souvenir, quoi, c'est une belle performance la première saison. Après, le regret que j'ai un petit peu, c'est qu'on n'a pas été dans, on n'a pas réussi à garder, on a formé trop bien formé certains joueurs qui sont partis, qui ont été appelés. Donc ça fait qu'on n'a jamais pu garder ces joueurs qui nous auraient fait monter.
C'est le problème de la Pro D2 de garder les meilleurs éléments de l'équipe.
C'est difficile, ouais. Il faut le dire, ça a été difficile. On a perdu des joueurs qui aujourd'hui font le bonheur au top 14. On les aurait alliés 2 ans de plus, je pense que ça serait monté. Et peut-être qu'ils seraient encore là. Ça a été le problème. Aujourd'hui, est-ce que nous, on est un club tremplin ? C'est-à-dire que les jeunes viennent ici parce qu'il y a, c'est vrai, il y a un très très beau staff. Et il y a un jeu qui porte vers l'avant. Il y a du monde dans les tribunes. Jouer à Nevers, il y a du plaisir. De travailler à Nevers, du plaisir, des structures médicales, très professionnelles. Le joueur est très très bien encadré. Donc ça se sait. Le problème qu'il y a, c'est que de trop bien les former, eh bien, ils deviennent bons et partent vite. Voilà, on a ce problème-là aujourd'hui. Mais il faudra arriver à créer une génération qui, au moins, qui reste 2 ans et qu'on arrive à faire un exploit, à faire quelque chose de bien. C'est possible, là, cette génération-là, mais il faudrait arriver à bloquer tout le monde pendant 2 ans. Ouais.
Est-ce que ça s'explique aussi par un trop gros fossé entre la Pro D2 et le Top 14 ? Je vais prendre l'exemple du foot parce que je suis un fan de foot. Entre la Ligue 1 et la Ligue 2, des fois, il n'y a pas forcément une marge qui est si importante. On le voit avec Auxerre, pas très loin, qui va retourner en Ligue 1, qui va redescendre en Ligue 2, mais qui va après remonter en Ligue 1 pour peut-être 2-3 ans. Est-ce que ça, c'est trop compliqué quand on a un club de Pro D2 ?
On ne peut pas trop comparer les deux. D'ailleurs, le foot a une Coupe de France où une équipe de nationale est capable de battre une équipe de Ligue 1. Au rugby, c'est impossible. Aujourd'hui, vous mettriez une équipe de nationale contre une équipe de top 14, il y aurait même du danger. C'est inconcevable. D'ailleurs, la Coupe de France avait été mise en place au rugby, elle avait été vite arrêtée parce que c'était pas jouable comme au foot. Voilà, on ne peut pas trop comparer les deux. Il y a un fossé entre le top 14 et le Pro D2, bien entendu. On l'a vu d'ailleurs contre Clermont, il y a 15 jours, quand ils sont complets. L'année dernière, ils n'étaient pas venus trop complets, cette année, ils étaient à peu près complets. On voit que dans la vitesse, dans tout, il y a un gros fossé. On va voir Vannes, ce qu'ils vont faire cette année. Il me tarde de voir, mais on voit qu'Oyonnax, qui a dominé le Pro D2 fort, a bien démarré et puis a pas, sur la longueur, a pas tenu.
Quand on est ancien concurrent de Vannes, on les soutient maintenant en top 14 ?
Oui, moi, Vannes, c'est un club que je soutiens fortement parce que c'est un...
Ça a toujours été un peu le club ami en plus.
C'est un club qui est en dehors de cette région du sud-ouest. Voilà, qui représente la Bretagne.
Alors là, maintenant, c'est assez impressionnant. Hein. On a vu la carte récemment dans nos amis du JDC. Vraiment, il y a Nevers. Et après, tout le reste, c'est en dessous Clermont-Ferrand. Hein. C'est vraiment impressionnant.
Voilà, on a perdu Rouen. Et on a perdu Bonvannes. Pour Vannes, c'est très bien. Pour Rouen, c'est moins bien. Voilà, ils se retrouvent. Massy était déjà descendu. Bourg-en-Bresse n'est plus là. Voilà, on se retrouve tout seul au nord, là, en état au centre. Donc ça, c'est pas très bon, je pense, pour le rugby français. J'espère que Vannes va se maintenir parce que c'est une région qui est capable de porter une équipe de top 14 et la soutenir, que ce soit financièrement et au niveau supporter. Donc j'espère qu'on va se maintenir. J'y crois. En plus, c'est un club qui est fidèle à son entraîneur. Donc ça, c'est quelque chose qui me touche toujours.
Il y a un côté familial un petit peu qui se retrouve avec Husson.
Voilà, il y a ce côté-là un petit peu qui se retrouve. Alors, c'est plus que familial, c'est de confiance. C'est de confiance, voilà, qui se retrouve. Voilà. Donc j'espère qu'il va réussir. Je pense qu'il va le faire d'ailleurs. Mais on voit qu'à Oyo, ça a été compliqué. Perpignan, ça y est, ils ont réussi à se dégager. Mayol aussi a réussi à se dégager et à y rester. Mais c'est sûr que c'est compliqué.
Husson, ce sera possible un jour, vous pensez ?
Tout est possible. Le Pro D2, c'est très, très serré.
Encore plus maintenant.
Ah oui, aujourd'hui, ça, j'ai connu le Pro D2 au début, c'était facile à lire. Aujourd'hui, c'est, je ne veux pas dire que c'est lisible, mais pas loin. Hein. Il n'y a plus de trop de matchs à la maison, à l'extérieur. Une, la vérité d'un jour est passée à le demain. Voilà, c'est quelque chose... Tout est possible, je veux dire. Tout, mais même dans le mauvais. Donc c'est pour ça qu'il faut être hyper vigilant.
Bon, on espère que ce ne sera pas le mauvais. On va terminer cet entretien avec des questions un petit peu plus personnelles sur votre manière dont vous avez de travailler. Je le disais tout à l'heure, vous êtes réengagé pour une saison qui a débuté là il y a quelques jours. Quand on vous a proposé cette prolongation, est-ce que vous avez hésité? Vous avez dit oui tout de suite?
Oui, parce que d'abord, c'était 3 ans qui étaient proposés. Ça, par contre, j'ai dit non, parce qu'à mon âge, je préfère aller année par année. Oui, parce que d'abord, moi, je pense que c'est pas fini. On n'a pas tout donné.
Vous attendez de partir quand vous aurez... Plus de regrets?
Non, je partirai. La première raison, c'est que le président me le demande de partir, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que moi, à un moment donné aussi, je trouve que je peux plus rien amener. Donc, dans ces cas-là, je partirai. Voilà, il y a plein de raisons pour l'entraîneur de disparaître, vous savez. Donc, c'est un métier à court terme qu'il faut essayer de faire durer. Donc, voilà, on verra comment ça se passe. Mais moi, je crois beaucoup au staff, je crois beaucoup à ce groupe de joueurs. Je pense qu'il n'a pas été assez récompensé. On est passé à côté de certains moments.
Guillaume
Jean,
Sébastien Foissier, Benjamin Thierry.
Oui, et Brice Chaffuel et d'autres. Voilà, parce qu'on est nombreux. C'est vraiment un staff fantastique où on a beaucoup de communication, où on a la même vision des choses et où on sait se parler, même quand on se dit des choses qui ne sont pas bien.
C'est votre 31e saison en tant qu'entraîneur. Vous êtes le plus ancien entraîneur, manager en poste chez les professionnels. Qu'est-ce qui vous motive chaque matin?
Mais c'est passé vite, hein. Je m'aperçois que c'est passé vite. Ce qui me motive le plus, c'est que tous les matins, quand vous êtes dans notre métier, vous ne savez pas ce qui va arriver. C'est que vous n'êtes jamais sûr de ce qui va se passer. Je ne sais pas comment expliquer. On ne va pas travailler, quoi. C'est de la passion. Ouais. C'est de la passion. Alors, je sais que peut-être qu'un jour, ça va s'arrêter. C'est là qu'il faudra que je sois capable de dire stop. Mais c'est un moment fabuleux. Aujourd'hui, je ne me vois pas sans, quoi. Ces moments-là. Et le match est fantastique.
Oui, bien sûr, c'est ce qui me motive à chaque fois en début de semaine, j'imagine.
Puis la gestion. Puis vous connaissez... On est nombreux maintenant, il y a 15 staffs, vous êtes avec 60 personnes, 70 personnes tous les jours. Moi j'aime ça, découvrir les gens, parler avec les gens, les aider, pas les aider, voilà, c'est des contradictions. Voilà, j'aime ce travail d'équipe. Donc voilà, c'est quand vous arrêtez, j'étais au chômage de 3 mois justement avant de venir à Nevers. Que tout s'arrête du jour au lendemain.
C'est brutal, ouais.
Assez brutal, ouais, parce que quand vous vous retrouvez tout seul, alors que vous envoyez 60 toute la journée, qu'il y a toujours quelque chose qui va se passer, parce qu'il n'y a que des surprises dans notre métier. Il n'y a que des choses que vous ne pensiez pas que ça allait arriver, qui arrivent.
Ouais, bien sûr. Avec l'évolution de la vie, de tout, est-ce que vous vous êtes rendu compte aussi que votre communication avec les joueurs a été obligée d'évoluer parce que les mentalités aussi ont évolué?
Ah ben, je vais vous dire clairement, pour résumer la chose, si je parlais aux joueurs comme je parlais au début de quand j'étais entraîneur dans les années 90-2000, je pense qu'aujourd'hui je serais en prison.
Carrément, oui.
J'aurais tout le syndicat des joueurs dessus, j'aurais des grèves. Non, mais pas en prison, mais ça se passerait très très mal. Donc il a fallu vraiment évoluer. Et puis ça va très vite là aujourd'hui avec les jeunes qui arrivent, qui sont vraiment particuliers.
Ce qui explique aussi le fait de votre durée aussi et le fait que vous êtes toujours en poste après tant d'années, c'est que vous avez su vous adapter aussi.
Ah, mais tout le temps, là, sinon il y a longtemps que je serais mort, hein. Du métier. Non, et puis c'est très intéressant aussi, parce que si, de toute façon on est dans un métier, quand vous pensez avoir raison, et que c'est vous qui avez raison, il n'y a que vous qui avez raison, en général ça ne dure pas longtemps. Alors ça peut durer, hein. Ça peut même amener à des résultats à court terme, mais ça ne dure pas longtemps. C'est pas possible.
Quand j'ai demandé à vous avoir en entretien, je ne savais pas trop si j'allais avoir un refus ou si vous alliez accepter, parce que j'ai remarqué que vous ne parliez pas énormément de vous, en fait. Quand j'ai essayé de travailler sur votre carrière, sur maintenant à Nevers et tout, en fait, ce qu'on retrouve, c'est que des réactions d'avant-match, d'après-match. Alors, c'est normal, parce que les gens s'intéressent à ça. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'introverti dans la vie?
Je ne pense pas. Je ne pense pas, non, d'être introverti. Après, ça... moi, je considère que ça n'intéresse pas grand monde, déjà, ma vie. J'ai quand même une vie publique avec le rugby. Donc, si je peux avoir une vie tranquille à côté de ça, ça me va très bien. Et raconter ma vie en dehors du rugby, mais écoutez, je pense que ça intéresse personne, à part ma famille.
C'est quoi votre vie en dehors du rugby? Vos occupations?
J'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, voilà. En dehors de ça, pas grand-chose, je l'avoue, parce que ça prend beaucoup. Ça prend beaucoup la tête, ça prend beaucoup le temps.
Votre famille vous demande des fois de lever un peu le pied?
Mais ma femme, il tarde qu'à ce que je sois à la retraite, oui, ça c'est sûr. il lui tarde, mais bon, on a tellement vécu avec ça que ça fait partie de la vie de la famille. Ça fait partie de la vie de la famille. Et c'est un métier égoïste, de toute façon. Hein. J'ai un métier très égoïste, hein, où c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense beaucoup à moi. Et quoi, beaucoup à moi? Je fais ce que j'ai envie et ce qui me plaît. Ouais. C'est le reproche qu'on peut me faire.
Oui, parce que penser à vous, c'est aussi penser aux autres, et notamment à tous les supporters qui se retrouvent au stade aussi.
Oui, voilà, je veux dire, je fais ce qui me plaît. Voilà, je fais ce qui me plaît, quand il me plaît. Voilà, je refais une saison, quand je dis oui, voilà, j'impose des choses.
Est-ce que c'est compliqué de sortir dans Nevers, aller au resto, aller boire un coup quand on est le manager de Luçon?
Pas du tout. Même, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont bu un coup avec moi. Non, pas du tout. Ça ne me dérange pas du tout, parce que j'ai pas honte qu'on ait gagné ou perdu, j'ai pas honte d'aller boire un coup en ville. J'ai des amis qui sont en dehors du rugby, même j'ai des amis ici dans le domaine, que je ne suis pas chasseur, dans le domaine de la chasse. J'ai fait des connaissances en dehors du rugby, des gens très, très sympathiques, parce que c'est des gens très sympathiques, où on discute bien sûr de rugby, mais on discute aussi d'autres choses, d'agriculture, des agriculteurs, ça. Moi j'aime bien discuter des métiers des autres avec. Ouais. J'ai des gens qui sont maçons, des copains qui sont chefs d'entreprise. Qui sont
s'intéressent au territoire aussi,
ouais,
bien sûr.
Voilà. Ouais. Donc, j'ai pas du tout. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont bu un coup avec moi sans problème.
Vous lisez ce qui se dit sur vous, que ce soit les médias?
Jamais. Ça, je l'ai fait au début, j'ai entraîné, et j'ai vite arrêté parce qu'on devient fou. Ouais. Ça change rien. Parce que quand c'est écrit, c'est écrit. Même à Bayonne, une fois, j'avais soulevé un journaliste. Hein. Et puis là, ce jour-là, je me suis dit, bon, ça sert à rien, donc je lis aucun journal. Ouais. Je ne suis pas sur Facebook, je suis sur aucun réseau, je lis aucun commentaire, et je m'en porte très bien. Et quand il y a quelque chose où on dit du mal, et c'est normal, parce que quand on perd, c'est normal qu'on dise du mal, quand on gagne, on dit du bien. Je trouve ça tellement inintéressant. Donc les gens peuvent écrire ce qu'ils veulent.
Ça me touche. Ça vous est égal?
Ah non, absolument pas. Il y a des joueurs, il y a des anciens joueurs aussi. Mais soi-disant, après j'entends parler, mais je veux même pas savoir.
Ouais, ouais.
Je veux même pas savoir.
Vous avez bien raison. Il nous reste 5 minutes. 5 bonnes minutes ensemble. À chaque fois que je reçois un invité comme vous, je propose aux auditeurs de vous poser des questions, parce que moi déjà ça me donne des idées, et puis parce que c'est intéressant aussi d'avoir une autre vision. Ce sont souvent, j'imagine, des auditeurs qui sont au stade le vendredi ou le jeudi soir. J'en ai retenu quelques-unes, pas toutes bien sûr. Alors, il y en a une à laquelle vous avez déjà répondu, c'est qui revient le plus, Luçon Nevers en top 14, quand est-ce que ça sera possible? J'ai l'impression que les gens pense que en fait c'est vous si on va en top 14,
non,
et c'est vous qui décidez en fait un petit peu.
J'aimerais bien, même le président serait content, je pense, Régis serait content. C'était juste comme ça que ça se passe. Voilà, je pense qu'on aurait pu le faire déjà. On l'a pas réussi. Là, c'est difficile de parler de top 14 aujourd'hui en ayant perdu le premier match à la maison, hein, contre Grenoble. Mais je vous dis, c'est un championnat qui est tellement serré. Voilà. Et puis on a eu des blessés au mauvais moment l'année dernière aussi. Là, cette année, on les a. Pour le moment, on a quelques rentrées. Il nous a manqué quelques joueurs l'année dernière, je pense, pour faire beaucoup mieux. Hélas, tout aurait été possible. Mais bon, il faut savoir que l'année dernière, on a battu. Là où on est l'équipe qui a fait le plus de points devant les 6 premiers. C'est nous qui avons battu, qui ont gagné le plus de points. Par contre, on en a perdu. C'est nous qui en avons le moins sur les 5 derniers. Donc, on a eu ce problème l'année dernière. On va voir, mais Nevers en top 14, quand vous faites des demi-finales, il faut se qualifier. Après, tout est possible.
C'est que ça se rapproche quand même.
Je ne peux pas vous dire si ça se rapproche. Ce qui est sûr, c'est qu'on aurait peut-être pu accrocher quelque chose de mieux. On a manqué souvent le match important. Demi-finale, ici, Vannes l'année dernière, la saison dernière, il y a 2 ans, voilà, c'est des moments un peu compliqué, qui ces jours-là peut-être on aurait pu y aller, mais Moi, j'ai confiance, tout peut se passer, tout peut arriver, mais il faut qu'on arrive à garder les bons joueurs un peu plus longtemps. Ça, c'est capital, ouais, parce que quand ils arrivent vraiment fort, parce qu'aujourd'hui, je vais pas mettre 25 000, hein, mais je vous ajoutez Tarit, Thomas Seyt, Zach Henry, j'ajoute ça déjà, et c'est pas la même saison. voilà, parce que c'était des joueurs qui amenaient beaucoup. Il y a des cas comme Camoussi. Voilà, ces joueurs qu'on a perdus là. Non, pas du tout. Parce que d'abord, c'est fait proprement. Ils motivent leur départ. Oui, mais vous savez, il faut savoir que Yannick Tarit, il nous envoie des textos encore. Et avant le match, on reçoit des textos, il regarde de Nevers parce qu'ils savent très bien qu'ils doivent beaucoup à leur entraîneur, à Seb, à Guillaume, à Brice. Ils leur doivent beaucoup s'ils en sont arrivés là. Donc, même des gars comme Zach Henry, toujours été intéressés par ce qui se passe au club. Ils savent que le club leur a été vraiment un accélérateur pour eux.
Il y a une autre question qui revient pas mal. Et j'ai un petit peu la réponse à celle-là quand même, c'est le public, est-ce que c'est une force supplémentaire lors des matchs à domicile? Vous avez parlé de cette effervescence du rugby à Nevers aussi.
C'est très important à Nevers, parce que, comme je dis, le stade résonne beaucoup. C'est très très important quand le stade est plein, quand le public pousse. Ça motive les joueurs et ça amène de la passion. Après, c'est aux joueurs aussi à amener la passion aux spectateurs, d'abord.
J'avais une autre question aussi. Alors là, je l'ai trouvée assez intéressante, elle ne concerne pas Nevers. Est-ce que vous avez regardé l'équipe de France à 7 au JO?
Alors, j'étais pas un fan de 7, et j'ai regardé tout le 7 au JO, et pas que l'équipe de France. Et d'abord, il y a eu les tournois l'année dernière aussi, ce qu'a mis en place la Ligue nationale, le Super 7, et j'avoue que j'y prends goût. Je trouve que c'est un jeu, je m'y suis un peu plus penché dessus, alors que je tournais la tête un peu. Là, je me suis penché dessus et j'ai pris beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir à le regarder. Bon, en plus, il y a le titre de l'équipe de France aux Jeux Olympiques, donc ça ajoute encore plus. Mais en regardant beaucoup de matchs, même la semaine dernière, j'ai regardé un petit peu le tournoi, c'était à Pau, je crois, ouais, à Pau, et le week-end d'avant aussi à La Rochelle, surtout celui-là. Mais je prends du plaisir aujourd'hui à regarder le 7. C'est un futur jeu de rugby. C'est un futur jeu de rugby qui peut attirer beaucoup de jeunes.
Par la rapidité aussi.
Le spectacle, la rapidité, qui demande des compétences différentes du 15, complémentaires à celles du 15. Mais je crois beaucoup en ça et j'aimerais qu'un jour, il y ait un championnat de France à 7 avec chaque équipe au moins de top 14 et son groupement à 7 pour, pourquoi pas, faire le lever des rideaux avant le match. Voilà, il y a des choses à créer avec le 7, mais la Ligue en a pris conscience et tout ce qu'elle a créé là sur le Super 7, tout ça, c'est en train de bien démarrer.
Quel est le joueur qui vous a le plus impressionné durant votre carrière? En tant que joueur ou entraîneur d'ailleurs?
Alors il y a Michel Barrault, personne ne le connaît, c'était le frère à Max Barrault. C'est, je pense, c'est un des plus grands joueurs avec qui j'ai joué, il savait tout faire. Après, joueur contre qui j'ai joué, qui m'a impressionné, Serge Blanco. Serge Blanco était un joueur fantastique, Philippe Sella. C'était le joueur Didier Codorniou, j'ai eu la chance de jouer face à lui, je peux vous dire que c'était pas simple. C'était des joueurs qui marquaient vraiment l'adversaire par du plus, le plus qu'ils avaient. Après, plus près, j'en ai côtoyé beaucoup, je vais en oublier, je vais me faire engueuler derrière. Il y a Serge Sergueïev à Montauban, qui a été un joueur exceptionnel. Je ne vais pas parler des joueurs que j'ai eu à Nevers, parce que ça viendra plus tard. Voilà, jusqu'à ma carrière là, après j'ai côtoyé des Morgan Parra, des Olivier Milou, des Julien Frier, c'est des gars. C'est en plus, il y a le. Quand je parle de ces gars-là, il y a le côté joueur, mais il y a le côté homme aussi, qui était passionnant, qui était vraiment passionnant.
Quand vous aurez fini votre carrière d'entraîneur, qu'est-ce que vous allez faire? Vous nous avez dit que 3 mois au chômage, ça avait été long.
Je ne sais pas du tout.
3 mois à la retraite, ça va être pareil.
Que quand j'arrêterai, c'est que j'allais voir, que je veux arrêter, voilà, que ce ne soit pas un arrêt forcé, voilà, que ce soit un choix, mais ça serait trop beau que ce soit comme ça. Ce que je vais faire, je n'en sais absolument pas rien.
Consultant?
Je ne sais pas jouer au golf, je ne sais pas bricoler, je sais pas. Consultant, pourquoi pas, mais peut-être pas obligatoirement dans le rugby. Je pense consultant dans une entreprise au niveau management, ça, c'est un truc qui ne me déplairait pas.
D'accord. Okay.
Voilà, peut-être laisser le rugby, ou alors il y a quelque chose qui peut aussi m'intéresser, c'est aider des clubs à structuration, de fédéral une ou de national, dans leur management, dans leur objectif de monter, dans leur structuration. Ça, c'est quelque chose où aider, par exemple, une équipe qui a des difficultés au niveau des résultats, faire un audit, voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, remettre de la compassion, c'est un manque de communication, remettre de la communication entre entraîneurs, joueurs. Ça, c'est des choses qui peuvent peut-être m'intéresser, mais pas à haut niveau. Pas au niveau parce qu'ils n'ont pas besoin, mais sur des clubs de fédéral, une qui ont
des projets, plus bas échelons, ouais, bien sûr.
Ouais, oh ouais. Qui ont envie de vivre des choses positives.
Il reste trois questions. Il y en a une, c'est la mienne. j'ai remarqué que quand je viens au match, alors notre tribune, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, notre tribune presse, en fait, elle est juste en dessous où vous êtes. Et la première mi-temps, vous la passez dans les tribunes. La deuxième mi-temps, vous la passez en bord de terrain. Constamment, quasiment constamment du moins. Pourquoi ?
Mais je fais ça depuis un petit moment. Parce que j'aime bien en première mi-temps voir...
C'est pas un tic en fait, c'est vraiment une vraie... Ouais.
Parce que par rapport à ce que demandent les entraîneurs aux joueurs sur les organisations offensives, défensives, on a une meilleure visibilité aussi. L'équipe adverse, comment elle joue. Mais du coup, il y a Guillaume Jean aujourd'hui à monter aussi. Comment elle joue, est-ce que c'est ce qu'on avait prévu. Voilà, on a une visibilité. Après, en deuxième mi-temps, j'aime être proche de mes joueurs. Voilà.
Il y a une autre question d'un auditeur qui doit connaître Montauban qui m'a demandé Sapiac ou Préfleury.
Eh bien, moi, j'ai eu la chance de connaître le vieux Sapiac parce que maintenant, c'est un nouveau Sapiac. Moi, je lui renvoie à cet auditeur. Je lui dis vieux Sapiac ou nouveau Sapiac.
Bonne réponse. La dernière, elle est assez rigolote. Elle ne concerne pas du tout le rugby, mais je trouve que c'est une manière rigolote aussi de terminer cette interview. C'est votre plat préféré.
Ah, je le dis, moi, c'est la tête de veau, j'adore ça.
Ah, c'est...
Donc, ici, j'ai...
Très bien. Voilà. Vous avez découvert ça ici?
Non, je connaissais. Mais manger comme ça ici, je n'avais jamais fait. C'est vraiment, je vais dire, aller dans mes plats préférés. Et puis là,
avec une bonne sauce grébiche.
Après, le porc au caramel de ma maman. Voilà.
Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
C'est le retour du son pop rock tout de suite sur Bac FM. On se retrouve demain à 10h30 pour Action, votre rendez-vous ciné. Je vous souhaite une belle soirée. Bye, à demain.